Bonsoir. Le projet de loi modifiant la loi électorale a été voté vendredi dernier selon la version proposée par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Jusque tard dans la nuit, la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale n'a pas pu harmoniser la divergence principale portant sur les seuils d'éligibilité. La délégation de l'Assemblée nationale a maintenu les seuils de 1% au niveau national et non au niveau de la circonscription électorale comme proposé par le Sénat. Par ailleurs, la disposition relative à la machine à voter a été élaguée de ce texte. Quelle analyse faire de l'adoption de cette loi par le Parlement? C'est la question du débat et nous en parlons avec Dr Didi Manara. Il est député national de la majorité présidentielle. Il est aussi vice-président de la sous-commission fonction publique de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Il est également cadre du PPRD et gouverneur honoraire du Maniema. Bonsoir Dr Didi Manara.
Bonsoir M. Guy Maté. Je salue également mes deux co-débatteurs, M. Fabien Mouton.
Monsieur Jérôme Bosso, ainsi que les auditeurs de la Radio de la Paix.
Fabien Moutombo, il est au téléphone, il est député national de l'opposition et premier vice-président du groupe parlementaire IDPS allié à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable Fabien Moutombo.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir aussi aux nombreux auditeurs de la Radio de la Paix, la Radio Okapi.
Et Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Bonsoir, M. Jérôme Bonso.
Bonsoir, cher ami Guy Maté. Bonsoir, honorable Didier Manara. Bonsoir, Fabien Moutom. Et bonsoir aux nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le Sénat a terminé vendredi vers 23h30 sa version ordinaire, sa session ordinaire sans voter la version finale de la loi électorale. En effet, après plusieurs heures en commission paritaire mixte sans compromis, le président de la Chambre haute s'est abstenu de soumettre au vote ce texte controversé. Selon les rapports du président de la commission PAJ du Sénat, l'Assemblée nationale a jugé bon de faire appliquer l'article 135 de la Constitution compte tenu de la divergence autour du des précisions avec Michel Kifindangoy.
Il est 23h, la séance plénière est reprise au Sénat. Prenant la parole avec un ton qui fait lire la fatigue, l'amertume et le découragement, le président de la commission PAJ du Sénat rapporte à la plénière les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire et les divergences persistantes sur la disposition du seuil. Pour le sénateur Sébastien Adambou, l'Assemblée nationale est restée sur sa position de maintenir un seuil d'1% au niveau national, alors que le Sénat voulait le faire appliquer au niveau de la circonscription. Face à cette divergence persistante, ajoute le président de la PAJ, l'Assemblée nationale a préféré faire appliquer l'article 135 alinéa 4 de la Constitution qui stipule, je cite, « Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte unique, l'Assemblée nationale statue définitivement », fin des citations, ce qui pousse le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, à clôturer la session de septembre 30 minutes plus tard, sans pouvoir soumettre au vote la version définitive de la loi électorale, laissant ainsi la position de l'Assemblée nationale primée.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, la version finale de la loi a été votée. 35 députés ont voté oui, 8 ont voté non et 2 se sont abstenus. Ces votes, les résultats annoncés par le président Obe Minaku, ont été contestés par certains députés de l'opposition. C'est dans ce climat que s'est déroulé les votes de la loi électorale. L'Assemblée nationale a donc statué seule, vu la divergence de vues avec le Sénat sur le seuil, comme l'explique le président de la commission PAJ de l'Assemblée basse, François Bokona, dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
S'agissant de la divergence relative au seuil, les deux délégations ne se sont pas mis d'accord pour les raisons suivantes. La délégation de l'Assemblée nationale a considéré que le seuil de 1% au niveau de la circonscription électorale n'était pas significatif et qu'il y avait, je dirais même, un non-sens Parce qu'au niveau des circonscriptions électorales, le seuil, c'est le quotient électoral qui est considéré comme le seuil d'éligibilité. On a donné l'exemple d'une circonscription de 50 000 votants, le 1% représenterait 500 voix. On a considéré que c'était tellement dérisoire et que autant ne pas appliquer le seuil tout simplement. Voilà pourquoi les deux délégations ne se sont pas mises d'accord et que, conformément aux dispositions de la Constitution, l'Assemblée nationale a statué définitivement en application de l'article 135 de la Constitution.
Docteur Didi Manara, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle, vous êtes vice-président de la sous-commission fonction publique de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, vous êtes également cadre du PPRD et gouverneur honoraire d'Imaniema. Finalement, l'Assemblée nationale a décidé de faire passer sa version. L'Assemblée nationale a décidé de voter cette loi en se référant à l'article 135 de la Constitution compte tenu des divergences autour du seuil. Et peut-on dire que le PPRD se frotte les mains étant donné qu'il vient d'obtenir gain de cause, du moins à ce stade?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois qu'ici n'est pas question du PPRD, il est question de la nation congolaise. Vous savez que nous avons organisé dans ce pays plusieurs élections, en 2006, en 2011, et ces élections ont connu des faiblesses. Il fallait les corriger. Et d'ailleurs, l'accord du 31 décembre 2016 a expressément demandé au gouvernement de la République d'explorer des voies et moyens de rationaliser le système électoral pour réduire le coût excessif des élections et pour corriger toutes les faiblesses. Voilà pourquoi le gouvernement ayant conçu ce projet de loi correctif a dû inscrire le seuil parmi ces stratégies correctrices. En fait, le seuil, c'est quoi? Il faut qu'on explique un peu aux éditeurs ce qu'est le seuil. Le seuil électoral est le pourcentage minimal des votes exprimés au-dessous duquel une liste n'est pas incluse dans la répartition des sièges. C'est-à-dire que lorsque, dans une circonscription donnée, le seuil qui a été déterminé par l'Assemblée nationale, donc le seuil au niveau national, si ce parti qui est de 1%, je vais expliquer, si ce parti politique n'a pas totalisé les nombres de voix qui représentent 1%, ce parti politique-là ne peut pas participer au partage des sièges.
Ce qui n'est pas facile dans les villes.
Ce qui n'est pas facile dans les villes. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Parce que, regardez, même si on fait l'assimilation, par exemple, pour les élections qui sont passées en 2011, vous allez remarquer que beaucoup de partis politiques ont dû réaliser ce seuil, mais il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas réalisé, parce que ce sont des partis politiques qui n'ont pas pratiquement une représentation, une représentativité nationale. Le PPRD, par exemple, si on fait une assimilation, hein, on prend les élections de 2006 et on applique le seuil. Le PPRD a eu 9,3%. Aurait eu 9,3% si on appliquait le seuil. L'UDPS, 5,6%. Le MCR, 4,6%. Le PPPD, 4,3%. Et ainsi de suite. Le PALU, l'UNC, l'AFDC, le MLC, l'ECT, ARC, RRC, PDC, UDECO, UCP, UFC, UNAFEC, UNADEF, MIP, RCDKML, CPR.
Et donc, c'est des partis qui seraient considérés comme étant éligibles.
Ont totalisé les 1%. Vous voyez qu'il y avait une crainte qui n'a pas dit son nom.
C'est combien de partis comparativement aux 700 partis politiques?
En 2006, en 2011, il n'y a eu que 350 partis politiques qui ont participé au vote. Et je m'en vais vous dire, par exemple, même si on n'a pas appliqué le vote, le seuil de 1%, parmi les 350 partis politiques, il n'y a eu que 50 qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une élimination de soi. Mais alors, pourquoi faire participer tous ces partis politiques entre guillemets, qui ne disent pas leur nom, aux élections, alors qu'ils n'en sont pas capables.
Et dont la plupart ont été créés par la majorité présidentielle.
La majorité présidentielle, vous savez, la Constitution stipule que tout Congolais peut créer un parti politique. Et parmi tous ces partis, vous voyez, il y a les partis de l'opposition, mais aussi les partis de la majorité présidentielle. Donc, le seuil n'est pas l'apanage. Là, il faudra que les Congolais comprennent. Le seuil n'est pas l'apanage de la seule République démocratique du Congo. Beaucoup de pays dans ce monde pratiquent le seuil, presque tous d'ailleurs. Tenez, l'Allemagne par exemple a un seuil de 5%. Nous ne sommes qu'à 1%. L'Autriche, 5%. La Belgique, 5% comme seuil. Norvège, 5%. Espagne, 4%. Je peux le dire jusqu'à la fin.
Donc, est-ce que nous sommes dans le même contexte?
Nous sommes dans le même contexte, c'est le contexte électoral.
Et puis, on dit que les innovations ne sont pas une mauvaise chose, mais il faut choisir les moments. C'est pour que c'est les moments qui ne seraient pas indiqués.
Le gouvernement a répondu à une attente de l'accord du 31 décembre. L'accord a permis au gouvernement de chercher les voies et moyens pour réduire les coûts. Voilà pourquoi le seuil est appliqué et malheureusement, il y a des partis politiques qui sont bidons, qui ne feront pas partie.
Honorable Guimanara, une loi votée sur fond des contestations, il va défavoriser les petits partis politiques et les candidats indépendants. Est-ce que vous pensez que les grands partis politiques comme le PPRD seront épargnés? Il faut savoir que beaucoup de choses ont changé sur le terrain. Hein. Si les jours du vote, vous avez essayé de parler du seuil de 1%, si les jours du vote, tous les 45 millions d'électeurs vont voter, et vous pensez que le PPRD pourrait facilement atteindre le seuil de 450 000 voix pour espérer être éligible?
Le PPRD,
dans le contexte du moment.
Dans le contexte du moment, je suis sûr.
Vous pensez que le PPRD a encore pignon sur rue aujourd'hui?
C'est le plus grand parti politique de notre pays aujourd'hui, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Les deux élections l'ont prouvé, nous allons encore le prouver plus tard. Et je dis que le système électoral qui a été choisi chez nous, hein, celui de la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voie préférentielle, avec la méthode des plus forts restes, et je crois que le PPRD sera le premier parti politique. Je n'en vois pas un autre qui peut supplanter le PPRD au jour d'aujourd'hui.
La loi a été adoptée. C'est quoi l'enjeu pour la majorité présidentielle en général et pour le PPRD en particulier?
L'enjeu principal, c'est respecter le calendrier électoral. Vous savez, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a donné à la République un calendrier électoral qu'il faut respecter. Parce que si on ne respecte pas le calendrier, eh bien les conséquences en suivront. C'est-à-dire que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, donc hier, cette loi dite électorale devait déjà être promulguée par le chef de l'État. Mais ça, elle n'a pas été. Parce que l'opposition, comme d'habitude, a procédé à des tests de visualisation pour essayer de retarder un peu les dates et repousser un peu les élections. Voilà la conséquence. Nous disons, allons droit au but, votons cette loi, le président de la République, chef de l'État, va la promulguer. Et nous allons respecter le calendrier électoral. C'est ça l'enjeu. C'est le respect du calendrier électoral, et respecter le peuple congolais en allant au vote.
Mais l'autre enjeu, ce n'est pas permettre au PPRD de diriger seul?
Le PPRD ne peut pas diriger seul dans un contexte de démocratie. Nous avons opté pour une démocratie dans notre pays et nous l'avons prouvé. Aujourd'hui, le Premier ministre, qui est M. Bruno Tshibala, vient de l'opposition. Il est de l'UDPS. Nous dirigeons avec l'opposition.
Merci. Fabien Moutombo, député national de l'opposition et premier vice-président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Nous rappelons que l'opposition a dénoncé les caractères liberticides et antidémocratiques de cette loi. Maintenant qu'elle est adoptée, qu'est-ce que vous allez faire? L'opposition va-t-elle se plier?
Je voudrais, d'entrée de jeu, vous faire voir qu'en principe, une loi, pour qu'elle soit correcte, elle doit être de portée générale, impersonnelle et applicable à tous. Mais depuis plusieurs années, vous allez constater en République démocratique du Congo, ce principe est en berne. Il vous souviendra qu'en 2006, la loi d'évacuation du débat contradictoire pour permettre à M. Kabila d'évoluer comme dans du beurre. C'était en dernière minute que cela a été élaboré. En 2011, sans aucune raison valable, on va éjecter le deuxième tour aux élections présidentielles en allant vers les élections à tour unique. Et aujourd'hui, en 2016, là, c'est un coup de massue qu'on vient de donner à la démocratie. Retenez seulement que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça s'est passé sans la présence de l'opposition, en violation de la loi sur l'organisation, sur les statuts de l'opposition. On a très bien dit qu'il n'y avait aucune opportunité à l'heure, puisque nous avons la loi électorale que nous avons modifiée en 2015, qu'on n'avait jamais appliquée. Quels sont les problèmes qui fâchent? Vous le savez très bien que l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous n'avons aucun problème. Mais nous sommes pour le respect des textes de loi, le respect de la Constitution et le respect des instruments internationaux que nous avons eu à signer. Retenez, les trois points qui fâchent dans ce projet de loi. Vous avez la question liée au seuil. Vous avez les cautionnements et vous avez la machine à voter. La question liée au seuil, si nous allons à l'article 111, cette question-là, elle est discriminatoire, puisque elle met de côté les indépendants violant l'article 101. Ça signifie qu'un indépendant ne peut pas oser même se présenter à ces élections de peur d'être écrasé, puisqu'il n'arrivera jamais à atteindre les seuils. Au départ du cautionnement, qui est le deuxième point, il y a des gens qui ont pillé la République, qui ont volé l'État. Et ces gens-là, ils élèvent le montant jusqu'à 1000 dollars américains. Dites-moi, un professeur de Mwangeji, de Kabinda, qui touche, je ne sais pas moi, 80 000 francs par mois, mais qui est célèbre dans sa contrée, ces messieurs-là, il est carrément interdit qu'ils puissent accéder aux élections. Donc, cet article 13 est heurté. Cet article souligne qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune autre matière, se retrouver exclu. Ça, c'est un point fondamental. Les deux points que nous venons de choisir, vous avez suivi que tout ce qui se passe au niveau et de l'Assemblée et du Sénat, ça se passe sous les socles d'un élément sonore où le peuple congolais a découvert le président de l'Assemblée nationale, le président, le secrétaire général du PPRD, Nanga, où ils sont en train de mijoter un complot contre la République. Ils vous disent que le gâteau est devenu maigre. La mosaïque des partis politiques, il faut tout faire pour les élaguer. Mais qui a créé cette mosaïque? Qui est à la base de la situation que nous sommes en train de vivre? Nous avons violé la Constitution. Nous avons violé les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi violé la charte de l'Union africaine. Il est très bien signalé qu'on ne peut pas changer les règles des jeux pendant que le processus a déjà commencé. C'est de la tricherie et le peuple congolais ne peut pas l'accepter. Qu'est-ce que nous allons faire? Déjà demain, les 19, nous avons une marche pacifique du rassemblement où nous allons exprimer notre mécontentement, où nous allons faire de telle sorte que le pouvoir en place puisse sursoir à cette loi, puisque cette loi, elle est démocratique. Cette loi, au lieu de décrypter l'espace politique en République démocratique du Congo, elle va plutôt crisper cet espace politique.
Merci Fabien.
Puisque même les minorités sociologique. N'oubliez pas que nous constituons un pays post-conflit. Nous avions adopté certaines techniques de votation pour nous permettre d'asseoir cette paix.
Merci, merci honorable. Nous allons vous redonner la parole tout à l'heure parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut qu'on permette aussi aux autres de pouvoir intervenir. Et Jérôme Bonceau, vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Et la loi électorale révisée est adoptée, mais sur fond des contestations. Comment vous analysez cela?
Oui, nous pensons que nous assistons tous à ce ping-pong électoral entre la classe politique, deux familles politiques, l'opposition politique et la majorité au pouvoir. La loi électorale était un ensemble de règles qui fixent comment le scrutin issu de l'accord du 31 décembre 2016, que nous appelons l'accord de la CINCO, devait être organisé. Mais pour les organiser, il faut avoir à main le boussole. Ce boussole-là que nous appelons la loi électorale. Et la loi électorale, elle n'est pas une nouvelle loi. C'est une loi, ici numéro 006 du 9 mars 2006, qui est en train de connaître ce qu'on appelle un charcutage électoral. Des modifications, des réformes. Oui.
Chaque fois à la veille des élections.
En matière électorale. Il ne faut pas refuser des réformes. Mais comment les réformes vont introduire des innovations? Et ces innovations vont-elles répondre aux aspirations et à l'apaisement des esprits des uns et des autres? Et c'est là que nous disons, on a introduit 3 innovations pour 2017, parce qu'on avait introduit en 2011, en 2015, mais nous nous trouvons aujourd'hui en 2017. Les 3 innovations qui sont, on vient de le dire, mes prédécesseurs viennent de le dire, un seuil de représentativité qui est parti de 3% à 1%, où l'Assemblée nationale s'en tient à 1% au niveau national, où le Sénat veut que ce seuil s'arrête à 1% au niveau des circonscriptions électorales. Deux cautions, c'est là où il y a un dénominateur comme est l'Assemblée nationale et le Sénat, tout le monde est d'accord pour que la caution puisse être de 1 000 $. Et 3, machine à voter. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est maintenu. Au niveau du Sénat, on a élagué. Maintenant, comme on a un dénominateur commun, sur les 3 innovations, il nous reste une seule innovation. Dès que tout le monde est d'accord sur le seuil pour assainir, pour créer des grands ensembles politiques. En matière d'économie, de gestion, on ne peut pas éviter de grands ensembles. Mais les grands ensembles, comme tel que nous voulons avoir, qu'on appelle de grandes plateformes, ça a des avantages et des inconvénients. En tant que désavantage, l'enjeu, c'est quoi? C'est voir celui qui sera président de la République, qui est concordance entre sa représentativité, sa majorité, et la majorité qui va être dégagée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, comme le vient de le dire honorable Mouton, vient de le dire, que nous nous trouvons devant une représentativité mosaïque, qui affaiblit même l'action du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui devait être dirigé par la majorité au pouvoir, disons, PPD s'il avait la majorité. Ou bien, aujourd'hui, le gouvernement est dirigé par une autre faction qui vient de l'opposition. Et vous voyez l'action du gouvernement qui devait être porté pour répondre aux desiderata du projet de société de la majorité. Cela n'est pas le cas. Et maintenant, nous nous trouvons devant cette situation. Et que les 3 innovations, nous sommes restés à une seule innovation avec l'interprétation, le contenu que les uns et les autres donnent au seuil de 1%. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir un processus électoral apaisé, qui doit être en fonction de l'environnement politique apaisé? Si aujourd'hui, il y a une controverse autour de l'adoption de la loi au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, il nous reste des opportunités. La première, c'est au niveau de la présidence de la République. Soit le président va dire, je retourne cette loi, qu'il vient mettre déposée sur mon bureau pour une seconde lecture. À ce moment-là, il y aura comme implication la convocation d'une session extraordinaire. La deuxième position, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle, pour voir la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle va accepter ou bien rejeter ce projet de loi. Et si ce n'est pas le cas, nous allons bloquer à ce moment la machine.
quand nous bloquons la machine électorale, tout en oubliant que le curseur électoral est en marche. Le curseur électoral que nous avons décidé à ce que le trois scrutins, le scrutin présidentiel, le scrutin députation nationale et provinciale puissent avoir lieu en date du 23 décembre 2018 et que le 11 janvier 2019, nous puissions assister à l'alternance politique. Parce que c'est la voie par laquelle nous devons passer. Mais si aujourd'hui, si nous ne parvenons pas à dégager un consensus pour nous dire que nous devons avoir le texte de loi électorale à temps pour que nous puissions aller au rendez-vous du 23 décembre 2017, nous risquons de connaître encore un glissement électoral et la responsabilité des uns et des autres aura difficile à être dégagée.
Monsieur Jean Bosso, vous avez suivi l'honorable Fabien Moutombe qui rappelle que pour qu'une loi soit correcte, elle doit être de portée générale, impersonnelle et applicable à tous. La loi qui vient d'être adoptée ne répond-elle pas à tous ces critères?
Ça, ce sont d'une façon qu'on élabore une loi. Parce que la loi aussi doit avoir sa durée, sa pérennité. Dans le temps, ça doit rester pour combien de temps? Pour que ça puisse répondre. La loi est faite pour répondre aux aspirations du peuple, aux aspirations de la population. Et c'est pourquoi les uns, tout le monde, deux camps, ont des conceptions différentes, deux perceptions différentes sur la loi électorale. Et maintenant, que faire pour avoir un dénominateur commun? C'est que le président de la République, et au niveau de la Cour constitutionnelle, puisse apaiser les uns et les autres, que tout le monde ait le même entendement sur le point qui échappe ici, le seuil de 1%. Tout le monde est d'accord pour le seuil de 1%, mais à quel niveau nous allons basculer le curseur du seuil sur la circonscription électorale ou bien sur le quotient électoral national. Et c'est de là où nous pouvons nous dépasser en tant que Congolais si nous voulons aller aux élections dans le délai que nous sommes fixés selon l'accord du 31 décembre 2017.
Merci docteur Didi Manara. Il y a une question à laquelle vous allez répondre, elle vient de Kinshasa.
Il faut qu'à Kinshasa, l'adoption de cette loi éminemment politique, de mon point de vue, devrait rencontrer l'assentiment des acteurs politiques de tous bords. Cette façon de faire s'apparente à un forcing de la majorité présidentielle qui cherche à imposer son point de vue. Et cet état de choses ne ferait qu'aggraver la crise de confiance perceptible, gage de contestation et de suspicion. Les décors semblent bien plantés pour des élections contestées.
Oui, docteur Didi Manara.
Bon, merci beaucoup de cette question, notre collègue de Kinshasa. Je n'ai pas bien retenu son nom.
Yves Poka.
Yves Poka, merci beaucoup. J'aimerais d'abord retourner à notre collègue Fabien Moutombe qui a parlé d'une tricherie lorsqu'on change les règles du jeu pendant les élections ou avant les élections. Mais je lui dis que non. Prenez un pays comme la France. À chaque élection, il y a toujours réadaptation des règles de jeu. Parce que nous devons absolument nous adapter aux réalités récentes, ainsi qu'aux exigences. Nous devons corriger les faiblesses. C'est ce qui est fait en France, c'est ce qui est fait partout au monde. Bon, lorsque nous le faisons en RDC, et surtout à la demande des acteurs qui ont participé aux accords du 31 décembre. Ça, c'est une demande tacite qui a été faite, donc une demande explicite. Ils ont dit clairement ceci. Je vais reprendre, Didi. Nous demandons expressement au gouvernement de la République d'explorer des voies et moyens pour rationaliser le système électoral et réduire le coût excessif des élections. Monsieur Guy Maté, savez-vous que nous avons actuellement 703 partis politiques inscrits au ministère de l'Intérieur. 703 partis politiques. Et 300 autres partis politiques sont dans l'antichambre. Donc, avant les élections, nous aurons plus de 1000 partis politiques. Ça, c'est quel pays? Ça ressemble à une république bananière, après tout. Nous devons absolument...
En quoi ça génère les jeux démocratiques
au pays? Ça gêne au niveau du coût. Je parle du coût. Ça, c'est une recommandation. Je rentre aux recommandations parce que tout le monde parle quand même des accords de la Saint-Sylvestre. N'est-ce pas? On parle du coût excessif. Et le pays, vous savez, nous avons des difficultés par rapport au gouvernement d'argent.
Donc, alors, Yves Poka a évoqué les consensus, l'assentiment de tous les acteurs politiques. Vous avez suivi M. Jérôme Bonceau, qui a estimé que les consensus étaient très importants.
Moi, je crois que lorsque on élabore une loi, ça doit suivre un certain cheminement. Le gouvernement a fait son travail. La loi est passée à l'Assemblée nationale. Elle est passée au Sénat.
il y a eu une commission paritaire. Et comme les deux chambres se sont exprimées en des termes contraires, c'est la vision de l'Assemblée nationale qui a prédominé. Je ne vois pas en quoi nous avons violé la Constitution. La Constitution a été respectée, le schéma a été respecté, et le coût a été réduit par ce schéma. Et je crois que le peuple congolais ne pouvait qu'acclamer cette loi.
Une fois de plus, la classe politique a été incapable de parvenir à un consensus.
Où est-ce que vous avez remarqué, citez-moi un seul pays où, lorsqu'on est devant une question aussi brûlante, il y a un consensus qui est tiré. Il y a toujours... Voilà pourquoi la Constitution a prévu tout ça. La Constitution a elle-même prévu que lorsqu'il y a une divergence de vues au niveau des deux chambres, il y a la vue de l'Assemblée nationale persiste. Donc, elle prédomine.
Comment vous réagissez, comment vous réagissez à cette opinion de cet auditeur Yves Poka qui dit que le décor semble bien planté pour des élections contestées?
Oui, ben ça sera pas une innovation chez nous, parce que nous savons que l'opposition, ce sont des prophètes des malheurs en fait. Mais je vous dis ici que les élections même de 2006 ont été contestées, les élections de 2011 ont été contestées. Nous ne serons pas surpris lorsque s'ils contestent encore ces élections.
Honorable Fabien Mutombo, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient une fois de plus de Kinshasa.
Moi, c'est Claude Mutombo Balimbala, intervenant à partir de Kinshasa. En fait, nous soutenons l'essai de représentativité. D'abord, puisque le mandat des députés, c'est un mandat national. Et celui qui représente le peuple doit avoir une certaine assise sur le plan national. Alors, le problème du seuil de représentativité a vraiment résolu ce problème. Deuxièmement, en tout cas, nous constatons qu'il y a une multiplicité des partis politiques. Mais avec l'essai de représentativité, les partis politiques seront obligés de se regrouper, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. En tout cas, ça nous éviterait les débauchages que nous connaissons avec les petits partis politiques et les indépendants. En troisième lieu, en tout cas, ça résout aussi les problèmes des gros bulletins de vote.
Fabien Mutombo.
Merci beaucoup, Monsieur Claude. En fait, je l'ai très bien dit d'entrée de jeu, que nous, à l'UDPS, ce problème ne se pose pas. Mais cependant, comme nous voulons asseoir dans ce pays un état de droit, raison pour laquelle nous soutenons que le problème des seuils viole l'article 101. Je souligne ici, les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent se présenter en indépendant. Les systèmes de seuil qu'ils veulent insérer chez nous, ça heurte l'article 101. Il n'y a pas que le problème de seuil. Il faudrait, quand vous dites que nous avons beaucoup de partis politiques, qui ont créé tous ces partis politiques? PPRO, PPROI, PPRC. C'est la mouvance présidentielle, puisque aujourd'hui nous n'avons plus de majorité au Congo. Il y a juste une mouvance présidentielle. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le problème des partis politiques, c'est la majorité et la mouvance présidentielle. Les seuils ici, je l'ai très bien dit, qu'on viole l'article 101 de la Constitution. Mais là, je voudrais quand même passer quelques mots. Notre ami a parlé en France, je ne sais pas moi, aux États-Unis, mais et il a cité l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais cet accord, il est appliqué en fonction des intérêts de la mouvance présidentielle. Il ne faut pas comparer ce qui se passe en France aujourd'hui et ce qui se passe chez nous. Mon collègue a oublié que l'Union africaine interdit les changements des lois électorales pendant que les élections sont en cours. Ici, chez nous, à partir du moment où le calendrier est lâché, c'est le coup de sifflet. Mais c'est alors que vous commencez à changer les règles des jeux. Ce qui est important, c'est ce que nous allons faire. Demain, le 19, nous allons manifester notre désapprobation pour que la mouvence présidentielle
retienne la raison. Fabien, vous avez suivi M. Bonso qui a estimé que la solution c'est soit les chefs de l'État, soit la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de M. Jérôme Bonso?
M. Jérôme Bonso, je respecte beaucoup, l'unique option pour le moment, le président de la République doit soit se désengager ou à la limite, il n'est pas en mesure de résoudre cette question. En ce moment-là, il démissionne et nous organisons une transition sans lui. C'est faisable.
Merci. Merci, Jérôme Bosso. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
Chouk Mouigiroua à Lubumbashi. Tout demeure flou, quoique ce projet de loi a été voté par le Sénat. Car le premier problème est le fait d'écarter les candidats qui pourraient se présenter sous casquette d'indépendant. En second lieu, un autre problème porte sur la machine à voter. Parce que d'après les propos de la CENI postés sur le site de Politicos CD en date du 16 du mois en cours, le Sénat n'a élagué que les votes électroniques mais n'a pas interdit la machine à voter. Ce qui me pousse à savoir la différence qu'on peut établir entre un vote électronique et un vote par machine à voter. Parce que si les classes politiques n'ont pas le même entendement de ces deux concepts, ceci risque d'être un grand obstacle à la tenue des élections apaisées. Mais aussi, quel devient le quotient électoral par circonscription si on doit maintenir l'essai de 1% pour se faire élire?
Monsieur Jérôme Bosso.
Merci, cher ami. Vous avez la crainte de voir écarter les candidats. Tout à fait, quand il y a une réforme, il y a des avantages et des inconvénients. Quand l'option qui est en train d'être levée concerne le seuil de 1% au niveau national, des représentativités au niveau national, il y aura de grands ensembles, effectivement. Mais il y aura aussi des inconvénients de cela, parce qu'à ce moment-là, le petit ensemble ne peut pas se retrouver. À ce moment-là, ils seront contraints à faire alliance ou bien à s'intégrer dans le grand ensemble pour voir bien le soleil. Et quand vous parlez de machine à voter qu'on a élaguée au niveau du Sénat, et la différence entre machine et vote électronique et machine à voter. Vote électronique, c'est un système électoral qui doit recourir à la connexion Internet. Or, la République démocratique du Congo n'a pas cette capacité de communication de recourir à un vote électronique. Tandis que machine à voter, c'est un petit ordinateur de 21 pouces qui a incorporé un scanner et une imprimante. Et qui est différent qu'on peut utiliser sans pour autant recourir à la connexion Internet.
Monsieur Jean Bosso, vous, en tant qu'expert, vous dites que la machine à voter, ce n'est pas le vote électronique.
Non, à moins qu'on soit tout expert électoral averti et qui a touché du doigt l'outil informatique qui est machine à voter, c'est différent.
Alors, lorsque vous suivez cet auditeur, il dit que il y a un responsable de la CENI qui a dit que le Sénat a élagué la disposition sur les votes électroniques et non sur la machine à voter. Cela veut dire que la machine à voter est toujours consacrée, est toujours maintenue dans ces textes.
C'est là le sous-entendu de la loi. C'est là le sous-entendu. Parce que la loi ne parle pas de machine à voter. Il y a un silence là. Et du moins, si la CENI va recourir à la machine à voter comme outil pour faire son travail de compte électoral, là, c'est aux législateurs, c'est là à la classe politique de se mettre d'accord. C'est pourquoi nous recourons tout le temps au consensus entre l'opposition, la majorité et les partenaires techniques et financiers. Est-ce que pour gagner du temps, pour gagner le moyen financier, comme Honorable vient de le dire, ne serait-il pas mieux de recourir? C'est une devoir. Mais ce sont des voies qu'on ne peut pas imposer, mais qu'on peut négocier pour établir un consensus là-dessus.
Mais pour éviter toute contestation future, pourquoi ne pas clarifier les choses? Pourquoi ne pas dire les choses formellement dans la loi? Dire qu'il s'agit d'un mode, c'est pas électronique ou semi-électronique ou manuel? Pourquoi ne pas le dire formellement dans la loi?
Parce qu'au niveau de la loi telle que qu'on est en train de modifier a parlé qu'on peut recourir aux fautes physiques ou fautes électroniques. Or, à l'heure qu'ils ne sont pas capables de recourir aux fautes électroniques, c'est exclu. Mais si on parle au jeu de machine à voter, c'est à la CENI de faire comprendre aux parties prenantes le contenu même de machine à voter.
Dans l'actuelle loi, la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est retenu?
On n'a pas fait allusion à la machine à voter. C'est là, à ce moment-là, ça sous-entend quoi? C'est que la CENI peut ne pas recourir à cette technique. C'est comme un ordinateur, il va faire, quelqu'un peut faire le calcul en utilisant un laptop ou bien en utilisant un ordinateur fixe. C'est la CENI à ce moment-là. Et en passant le message, je l'insiste, je le répète, auprès d'autres parties prenantes pour que ça ne puisse pas créer un pomme de discorde. À ce moment-là, on risquerait de contester le résultat qui sortirait de ce scrutin.
Monsieur Jérôme Bosso, au-delà, n'est-ce pas, des dispositions qui fâchent, notamment les seuils, la caution, ainsi que la machine à voter, et quels sont les avantages que présente cette nouvelle loi?
La nouvelle loi a comme innovation, c'est la création de grands ensembles avec les seuils. Le grand ensemble à travers le monde, quand on est manager, et vous voyez, je donne un exemple banal, il y a des sociétés aériennes qui se regroupent. Lufthansa avec Swissair, ainsi de suite, ils se regroupent. Et même au niveau des grandes entreprises, il y a de grands ensembles. Maintenant, nous posons la question, s'il y a aujourd'hui des contestations, ainsi de suite, nous nous trouvons dans quel contexte où on peut recourir à ces grands ensembles? Nous devons de développer un argumentaire à faire passer le message. L'importance et la nécessité d'avoir de grands ensembles. Parce que nous, des fois aussi, l'opinion se demande comment un pays qui peut avoir autant de partis politiques et qui serait difficile à gérer et difficile à comptabiliser.
Merci. Merci, Dr. Denis Manara. Il y a le député de la majorité présidentielle, Thomas-Henri Lecondo, qui demande au chef de l'État de renvoyer ces textes pour inconstitutionnalité. Et il menace même, il dit que si le chef de l'État ne renvoie pas ces textes-là, et lui, il va saisir la Cour constitutionnelle. Vous voyez que même au sein de la majorité présidentielle, les gens contestent plutôt ces projets de loi.
C'est son droit de recourir à la Cour constitutionnelle. Il n'y a personne qui va lui refuser ça. S'il veut le faire, il n'a qu'à le faire. Mais j'aimerais un peu éclairer un peu cette histoire des machines à voter et de vote électronique. J'accepte ce que le collègue Mbosso vient de dire tout à l'heure. Quand on a une machine à voter, à côté, il y a une urne. C'est-à-dire que l'électeur, il vient... Il vote son candidat en appuyant son doigt sur l'image de son candidat préféré. L'ordinateur à côté, l'imprimante, imprime le bulletin de vote et l'électeur prend le billet de vote là et il met ça dans l'urne.
Un nouveau mode de vote qui devait en principe
c'est un nouveau mode de vote
être,
qui
pas,
réduit le coût.
En principe il fallait trouver un consensus
qui réduit le coût sensiblement, je le dis. Et l'avantage c'est lequel? L'avantage c'est que tous les candidats peuvent automatiquement, parce que la machine calcule les voix, ils peuvent voir le total de voix que le candidat a obtenu et il doit comparer ça avec le compte manuel de l'urne. Et ça donne vraiment un avantage double.
Malheureusement, tout le monde n'a pas la même opinion. Honorable, maintenant que le projet de loi est adopté, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC? En conclusion, en fait, nous sommes à la fin de l'émission.
Non, merci beaucoup de la question. Quant à la finalité de cette loi, au fait, la loi sera appliquée. À moins que le président de la République lui-même puisse dire que non, comme il n'y a pas eu consensus au niveau des deux chambres, et il est de bon aloi pour lui, en tout cas, comme arbitre, de pouvoir instruire aux deux chambres de ce qu'ils doivent faire. Mais j'aimerais dire un mot par rapport à cette marche qui est organisée demain. Encore une fois, l'opposition veut amener le peuple congolais à la désobéissance civile, veut amener le peuple congolais au trouble, et c'est encore une fois un coup d'épée dans l'eau, parce que le peuple congolais n'a plus besoin de tout ça. Le peuple congolais veut voter, et c'est ce qui sera fait le 31 décembre 2018.
Honorable Fabien Moutombe, votre conclusion, c'est comment vous entrevoyez la suite du processus électoral?
La conclusion, elle est simple. Le peuple congolais, à travers le rassemblement, l'Union pour la démocratie et le progrès social va se prendre en charge. Le regard est tourné vers le président de la République s'il n'est pas en mesure de trouver des solutions qui démissionnent pour une transition sans lui.
Merci, Jérôme Bosso, votre conclusion.
Cherchons à construire les consensus solides, les consensus battus sur la confiance mutuelle que nous devons faire pour sauver notre processus de démocratisation qui est en péril.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique, à l'Airong qui l'a réalisé sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.